VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guiriac au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du jeudi 23 avril 2015. Au sommaire ce matin...
Au Nigeria, la forêt de Sambisa, dernier bastion connu de la secte islamiste Boko Haram, est aujourd'hui la cible d'une offensive de l'armée.
Insécurité grandissante au Mali, la population vit la peur au ventre dans la région de Mopti.
L'administration est presque absente dans certaines localités telles que Ténénkou. Les villages sont laissés à leur propre sort et ce sont les hommes armés qui y dictent leurs lois.
De son côté, la rébellion Touareg n'a toujours pas approuvé l'accord d'Alger.
En Guinée, le président Alpha Condé a rejeté implicitement hier tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition appelle à des manifestations dans tout le pays aujourd'hui.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, le dernier bastion connu de la secte islamiste Boko Haram est aujourd'hui la cible d'une offensive de l'armée. Chérubin Dorsil pour des précisions.
Les troupes nigériennes, avec l'appui d'avions de combat, ont envahi la forêt de Sambisa ce mercredi, espérant finalement venir à bout de cette insurrection de 6 ans. De sources militaires ont confirmé à l'agence Reuters que l'opération avait bel et bien commencé dans cette forêt située près de la frontière camerounaise. Sambisa revêt un intérêt particulier, étant située à environ 100 kilomètres du village de Chibok, où Boko Haram avait enlevé plus de 200 jeunes filles il y a un an. Des responsables du renseignement avaient à un moment laissé entendre que les écolières kidnappées étaient détenues dans cette localité, mais des drones de surveillance américains n'ont pas pu les repérer. Durant les 2 derniers mois, les armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun se sont concertées pour tenter d'écraser Boko Haram, un groupe responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes et de l'enlèvement de centaines d'autres et qui a fait acte d'allégeance à l'organisation djihadiste État islamique. Bien qu'affaibli, Boko Haram demeure très dangereux, particulièrement pour les civils.
Au Mali, la rébellion Touareg a confirmé hier n'avoir pas encore approuvé l'accord d'Alger, dont la signature est prévue le 15 mai à Bamako. Jean-Roger Billon.
La coordination des mouvements de l'Azawad, qui avait refusé le 18 avril de paraffer l'accord d'Alger, a rappelé hier dans un communiqué que le projet d'accord ne l'engagerait que lorsqu'elle l'aura approuvé. La CEMA réaffirme son engagement à respecter le cessez-le-feu signé à Kidal le 23 mai 2014 et la déclaration de cessation des hostilités conclue à Alger le 24 juillet 2014. Les rebelles souhaitent entre autres la reconnaissance de l'Azawad comme entité géographique, politique et juridique et la création d'une assemblée interrégionale couvrant Gao, Kidal et Tombouctou. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, affiche un optimisme prudent. Il a dit hier être convaincu que la plupart des parties maliennes seront présentes à la signature de l'accord le 15 mai à Bamako.
Le président guinéen Alpha Condé a rejeté implicitement hier tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition demande l'annulation du calendrier électoral qui place les locales après la présidentielle. Henri Francisque.
La constitution guinéenne impose que les élections présidentielles aient lieu à une date précise. Sinon, il n'y a plus de pouvoir, a déclaré le président Alpha Condé à l'issue d'un entretien à l'Élysée avec son homologue français François Hollande. L'opposition a appelé à des manifestations dans tout le pays ce jeudi pour dénoncer le calendrier électoral de la discorde. La commission électorale nationale indépendante a renvoyé les élections locales à 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. D'ailleurs, les 13 et 14 avril, entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre, avaient fait 2 ou 3 morts. 12 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison ferme à la suite de ces incidents.
Guinée toujours, 11 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité pour le meurtre de 8 membres d'une mission de sensibilisation à Ebola en septembre 2014. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources judiciaires. Les 15 autres personnes jugées pour ces meurtres ont été acquittées au terme du procès mardi soir, selon les mêmes sources.
Présidentielle togolaise, les forces de sécurité ont voté par anticipation hier, le grand public étant attendu aux urnes samedi. La commission électorale affirme ne pas disposer de chiffres, mais la concertation nationale de la société civile, citée par l'AFP, estime à 20 000 le nombre de militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers qui devaient voter.
Et dans le même temps, Amnesty International et Action des chrétiens pour l'abolition de la torture appelle les 5 candidats à la présidentielle au Togo, où la torture reste une réalité, à s'engager à défendre les droits de l'homme. Il faut d'abord mettre un terme à l'impunité des auteurs des exactions d'avril 2005, durant la calamiteuse présidentielle ayant porté l'actuel président Faure Gnassingbé au pouvoir, entaché de violences politiques, ayant causé la mort de près de 500 personnes, indique un communiqué cité par l'AFP.
En Angola, 22 personnes sont mortes dans des affrontements entre la police et les membres d'une secte. Des précisions avec Eddie Sango.
Selon les médias angolais, des affrontements avaient éclaté le 16 avril dans la localité de São Pedro Sumé lorsque des centaines d'adeptes de la secte qui y vivent reclus ont opposé une résistance à la police qui tentait d'interpeller Julinho Kalupeta, le dirigeant d'un mouvement évangélique appelé « Septième jour, la lumière du monde ». L'agence angolaise de presse qui cite le commandant général de la police nationale affirme que la secte est illégale car non connue par les autorités angolaises. 13 membres de la secte ont été tués. Ils faisaient partie de la garde des Kalupeta. Ils étaient, selon le commandant général de la police, les premiers à ouvrir le feu contre la police. 9 policiers ont aussi trouvé la mort dans les affrontements. Le MPLA, parti du président José Eduardo Santos, a accusé les principales parties de l'opposition, l'UNITA, de soutenir en sommet la secte pour créer l'instabilité, une affirmation vivement rejetée par l'UNITA. La secte, une branche dissidente de l'église adventiste du septième jour, prévoit la fin du monde pour cette année et incite ses fidèles à vivre coupés du monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants européens doivent se prononcer aujourd'hui sur une opération militaire contre les trafiquants de migrants en Libye. Le chef du gouvernement italien a demandé l'examen de la possibilité de mener des interventions ciblées contre les passeurs en Libye, devenu le pays d'embarquement des migrants et des candidats à l'asile en direction de l'Italie et de Malte. Personne ne parle d'envoyer des troupes au sol, a assuré une source européenne, tout en soulignant que la question d'un mandat des Nations Unies dépend de l'étendue de la mission. Ce ne sera pas une guerre, mais des actions ciblées, a confié à l'AFP une source proche du dossier.
Il faut entreprendre des efforts systématiques pour identifier, capturer et détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, selon le projet de déclaration du sommet extraordinaire convoqué après un nouveau naufrage dimanche qui a fait quelque 800 morts en Méditerranée. Les chefs d'État et de gouvernement devraient donc lancer les préparatifs pour une possible opération de sécurité et de défense, autrement dit une opération militaire. Ce serait une première dans la lutte contre l'immigration clandestine, souligne l'AFP.
Au Yémen, l'aviation de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a mené dans la nuit jeudi matin, aujourd'hui donc, de nouveaux raids contre des positions rebelles. C'est ce qu'ont indiqué des habitants. Les frappes ont visé des rebelles près de la capitale Sanaa, au nord de la ville de Taiz et dans la ville de Yarmine, ont ajouté ses sources.
En France, un Algérien soupçonné de préparer un attentat contre une église et d'avoir assassiné une femme a été arrêté à Paris. Des documents en lien avec le groupe État islamique et Al-Qaïda ont été saisis. Les autorités françaises soulignent la persistance d'une menace inédite. Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé sur France Inter que 5 attentats avaient été déjoués ces derniers mois en France.
Ici à Washington, le contre-amiral John Kirby, ancien porte-parole du Pentagone, va devenir le porte-parole du Département d'État. C'est ce que rapporte un responsable américain que cite l'AFP. Il sera donc chargé de briefer les journalistes sur la politique étrangère américaine et les principaux dossiers diplomatiques. Il va succéder au Département d'État à Jennifer Psaki, qui elle-même a obtenu une promotion en devenant fin mars chef de la communication de la Maison-Blanche.
Et aux États-Unis toujours, la famille de Michael Brown entend intenter un procès au civil contre la ville de Ferguson, au Missouri. Souvenez-vous, ce jeune noir de 18 ans avait été abattu par un policier en août 2014 dans cette ville du Missouri, alors qu'il n'était pas armé.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
La vague de violences xénophobes qui secoue l'Afrique du Sud depuis plusieurs semaines a durement affecté l'économie, faisant perdre des recettes d'exportation, a regretté mercredi le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie. Bien qu'il soit encore trop tôt pour quantifier les pertes pour l'économie la plus sophistiquée d'Afrique, qui exporte beaucoup dans le reste du continent, l'effet des violences est selon lui clairement négatif. Ces violences ont été suivies dans certains pays du reste de l'Afrique par des appels au boycott des produits sud-africains. La Banque islamique de développement, la BID, a signé un accord de prêt de plus de 77 milliards de francs CFA avec la Côte d'Ivoire pour le financement du prolongement de l'autoroute du Nord entre la capitale Yamoussoukro et la ville de Thiébissou. La BID avait déjà participé au financement de la première phase de l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro. En 2013, le groupe de la BID a approuvé près de 2 milliards de dollars pour le financement de projets en Afrique sur une enveloppe de 3,5 milliards de dollars dédiés à ses opérations sur le continent. Et des paysans africains et asiatiques ont annoncé le lancement d'une série d'actions de protestation contre l'accaparement de leurs terres par une holding dont le principal actionnaire est le groupe Bolloré. Il s'agit de la SOCFIN, holding luxembourgeoise dont le capital est détenu à 39% par Bolloré, qui possède des plantations de palmiers à huile et d'EVA dans plusieurs pays africains ainsi qu'en Indonésie et au Cambodge. La première action est prévue pour ce jeudi dans une plantation de la localité camerounaise de Dibombari.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon. On passe au sport avec Bagessikoura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
En football, suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
La Juventus Turin s'est hissée en demi-finale en obtenant un nul 0-0 hier soir à Monaco, vainqueur 1-0 à l'aller sur un pénalty litigieux de Vidal. La Juve, deux fois sacrée dans la compétition reine en 1985 et 1996, retrouve donc le dernier carré d'as pour la première fois depuis 2003. Lorsqu'elle avait atteint la finale perdue au tir au but face à l'AC Milan. Quant au Real Madrid, après le 0-0 de l'aller face à son rival de l'Atlético Madrid, il peut dire merci à Chicharito Hernandez qui a marqué dans un match tendu le but de la victoire au bout du suspense 1-0 à la 88e minute. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi prochain à la mi-journée au siège de l'UEFA à Nyon. En Suisse.
Et la NBA, bientôt en Afrique.
Oui, la NBA fera incursion pour la première fois en Afrique le 1er août prochain à Johannesburg dans un match exhibition entre joueurs originaires du continent et du reste du monde. On reviendra plus en détail sur cet événement dans la partie magazine.
NBA, toujours, Oklahoma City a limogé son entraîneur.
Oui, Scott Brooks, après avoir manqué les playoffs de la NBA pour la première fois depuis 2008-2009, a été remercié. Les Founders, équipe où évolue Russell Westbrook, meilleur marqueur de la saison 2014-2015, et Kevin Durant, meilleur joueur de la saison 2013-2014, a terminé à la 9e place de la conférence Ouest avec un bilan de 45 victoires pour 37 défaites. Et puis Morgan, toujours en NBA, les résultats des playoffs.
Hier soir, Brooklyn a perdu face à Atlanta, 91-96. Et Portland Trail Blazers s'est incliné face à Memphis, 82-97.
Salut les amis, ici Roger Montou de VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Comment rompre une relation amoureuse de façon élégante sans blesser votre ex? La rupture amoureuse peut être difficile et douloureuse pour certains. Alors comment rompre en douceur? Envoyez vos réactions par SMS au 225-58-928-540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez aussi au 001-202-619-3140. Encore une fois, c'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Nos salutations ce matin à nos amis de Kinshasa qui nous écoutent sur Raga FM. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie pour cette édition du jeudi 23 avril 2015. Place au dossier du jour. Nous partons au Mali, dans la région de Mopti. La population vit la peur au ventre. Et pour cause, l'insécurité y est grandissante en raison des attaques des groupes armés. De Mopti, la correspondance de Mamadou Bokoum.
Dans la région de Mopti, l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Les hommes armés circulent un peu partout dans le delta. Presque toute la zone inondée est devenue un no man's land. Tantôt, ce sont des véhicules des forains qui sont attaqués, tantôt les villages de différentes communes. Des attaques à travers lesquelles il y a mort d'hommes dans la plupart des cas. L'administration est presque absente dans certaines localités telles que Ténénkou. Les villages sont laissés à leur propre sort et ce sont les hommes armés qui y dictent leurs lois. La belle illustration est l'arrivée il y a une semaine dans la commune de Moura, cercle de Djenné, de quelques éléments armés qui se réclament de la secte islamique la Daoua. Une secte dont l'investigateur dans cette zone est Amadou Koufa, un prêcheur peul qui a rallié le rang des islamistes en 2012. Dans ce village, ils ont assiégé la mosquée où ils ont prêché avant de rendre visite au chef de village et au maire à qui ils ont notifié leur contrôle de la zone. En plus, ces éléments ont mis en garde la population d'une éventuelle dénonciation sous peine de mettre le feu au village. Un peu plus loin, à Kouakourou, les maires et le sous-préfet n'y passent pas la nuit par crainte d'être enlevés. La menace djihadiste s'est prolongée jusqu'à Sofara, où le sous-préfet avait mis à l'abri sa famille. Bref, les populations de cette zone sont dans l'insécurité totale au vu et au su des autorités maliennes. Des autorités qui s'apprêtent à signer des accords de paix le 15 mai prochain, même sans une des parties belligérantes. Cet accord pourrait-il amener une paix définitive au Mali? Wait and see. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Cap sur le Niger, le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles de Niamey pour 5 jours pour une campagne de vaccination qui commence aujourd'hui. La capitale nigérienne et d'autres villes du pays sont confrontées depuis quelques semaines à une épidémie de méningite qui a déjà fait plus de 80 décès. Point sur ce reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Depuis l'annonce de l'épidémie par les autorités sanitaires, les populations, à défaut d'une campagne de vaccination, se sont lancées dans la recherche du vaccin pour se prévenir. Mais le produit est cher, mais surtout rare sur le marché, comme le confirme ce pharmacien.
Au niveau de nos centrales d'achat, la disponibilité n'y est pas. Et nous, on ne peut que passer par les centrales d'achat pour commander les vaccins afin de mettre à disposition ces vaccins-là à nos clients. Nous sommes même peinés de pouvoir dire à nos clients que nous n'en disposons pas de ces vaccins-là, parce que sur un sondage de 5 clients qui rentrent dans cette pharmacie, les 4 nous demandent le vaccin. Et très malheureusement, nous sommes très très peinés de ne pas pouvoir mettre à leur disposition ce vaccin.
Comme dans de pareilles circonstances, des individus trouvent une occasion pour abuser de l'ignorance des populations. C'est ainsi qu'un vaccin pas du tout efficace est mis à la disposition des demandeurs à vil prix. Docteur Idi Iliassou est le responsable de l'Observatoire des droits de la santé du Niger.
En ce qui concerne les gens qui font des vaccins en ville, on ignore la provenance de ce vaccin et on ignore même les gens qui le font, puisque jusque-là, de façon officielle, il n'y a aucun vaccin qui se fait. Parce que s'il y a une vaccination de masse de façon officielle, ça ne peut être que dans les structures de santé. Or, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin dans les structures de santé pour vacciner la cible. Mais il y a des vaccins qui sont vendus dans les pharmacies, dans les officines. Nous, on attire l'attention de ces gens qui s'adonnent à ces pratiques. Non seulement tu ne peux pas acheter un vaccin à 55 000 ou à 124 000 dans une pharmacie et venir le vendre à 1 000 francs ou à 2 000. C'est ça la contradiction. Il faut faire attention, il faut être prudent.
La maladie fait des ravages, notamment dans la capitale Niamey. Les commandes de vaccins lancées par le gouvernement sont annoncées pour être là ce mercredi pour permettre une réussite de la campagne de vaccination qui doit débuté jeudi. Il a décidé de fermer toutes les écoles jusqu'au lundi prochain. Manu Agali est le ministre de la Santé.
Notre pays a connu beaucoup d'épidémies, de méningites. Et maintenant, il y a l'apparition d'une nouvelle souche qui est épidémique, c'est la souche W et la souche C. Donc au niveau de Niamey, nous avons vu l'évolution des cas qui fait en sorte qu'il nous faut agir en termes de vaccination, en termes de traitement, de prise en charge des malades. Donc aujourd'hui, si le gouvernement décide de fermer les établissements scolaires, c'est pour permettre d'abord de prévenir et de préparer aussi une riposte. Nous allons organiser des vaccinations. Et on va commencer au niveau des écoles primaires.
Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration. La Méditerranée, devenue un véritable cimetière maritime, qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi Salwa Jafari pour un nouveau Washington Forum ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
Plus des trois quarts des entreprises américaines, étudiées par les ONG Amnesty International et Global Witness, ne respectent pas les obligations de la loi Dodd-Frank sur les minerais provenant de zones de conflit. C'est ce qu'indiquent les ONG dans un rapport publié mercredi. Pour plus de précisions sur ce rapport intitulé « Une mine de transparence », on écoute Evie Franck, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International.
En 2014, juste pour donner un peu de contexte, en 2014, c'est la première année dans laquelle plus d'un millier d'entreprises ont remis un rapport sur l'usage des minerais provenant des zones de conflit à la Security and Exchange Commission. Amnesty et Global Witness, nous avons pris un échantillon de ces entreprises. Nous avons sélectionné une centaine d'entreprises. 50 d'entre eux sont les 5 plus importants de 10 secteurs d'activité différents. Et les 50 autres ont été choisis de manière aléatoire avec un programme informatique. Après, ce que nous avons fait, c'est de fixer 10 critères pour évaluer la qualité des rapports qui sont soumis à la Security and Exchange Commission, sur base desquels on a fait une évaluation des efforts de diligence que ces entreprises ont fait. C'est sur base de ça que nous, on a conclu que presque 80% des entreprises ne vérifient pas correctement le produit qui contient des minéraux provenant des zones de conflit. Mais nous aimerons aussi clarifier que ça veut dire que quand même une entreprise sur 5 a bien respecté la loi et ils ont mis en œuvre leur devoir de diligence. Ils ont prouvé que c'est bien possible d'appliquer ce devoir de diligence et ainsi ils ont écarté l'argument des entreprises que la mise en œuvre d'un devoir de diligence sera trop compliquée ou trop coûteuse. Et donc, Amnesty et Global Witness regrette aussi que ces grandes entreprises et les groupes d'industrie ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour combattre la loi, plutôt que d'user cet argent et ce temps pour mettre en œuvre cette loi.
Les entreprises qui ne se sont pas contentées de démarches auprès de leurs fournisseurs directs, mais qui ont pris contact ou tenté de prendre contact avec les fonderies, les affineries qui transforment les minerais, elles montrent vraiment la voie, elles montrent que ça peut se faire.
Oui, effectivement, et c'est ça en fait un des conclusions principales de notre rapport, c'est que c'est possible, c'est vrai que ça demande un effort, ça demande un investissement et du temps. Il faut que les entreprises aient établi une politique pour identifier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Ils doivent vraiment faire les études pour clarifier leur propre chaîne d'approvisionnement parce que souvent, les entreprises ne savent même pas d'où vient ce minerai. Mais donc, 21% des entreprises que nous avons étudiées, ils ont fait ces efforts et que c'est bien possible de le faire.
On écoutait Evie Franck, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
La NBA, bientôt en Afrique. La Ligue nord-américaine de basketball professionnel jouera le 1er août prochain son tout premier match d'exhibition sur le continent. Celui-ci mettra aux prises à Johannesburg Team Africa, conduite par le Britannique d'origine sud-soudanaise Luol Deng de Miami et Team USA menée par l'Américain Chris Paul des Clippers de Los Angeles. Timothée Donongmaï a demandé à Eugène Pewa Pelema, ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, la portée de cette rencontre de la NBA en terre africaine.
Je pense que il est très important pour la simple raison que, un, ça développera le basketball sur le continent africain qui a un très grand potentiel humain, mais aussi ça peut être un moyen de développement socio-économique, création d'emplois, si on professionnalise le sport à une échelle continentale.
Des Africains comme Hakim Olajuwon ou encore Dikembe Mutombo se sont illustrés au sein de la NBA. Où se situe la représentation du continent aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, on a de nombreux joueurs, hein, soit qui jouent pour leur pays d'origine ou qui jouent pour un autre pays. J'en citerai quand même un petit nombre. Il s'agit par exemple des Camerounais Luc Mbamute et Joel Embiid à Philadelphia Sixers, du Congolais espagnol Serge Ibaka, du Congolais RDC Bismack Biyombo, du Soudanais anglais Luol Deng, du Nigérian Aminu Al-Farouk, du Sénégalais Djeng Gorgui ou encore des Nigérians Ezeli, Yudo, Ghanéen Vonley, Noir, Nigérian Grec Antetokounmpo Giannis ou encore des Nigérians Américains Guadala, Boris Dio, Sénégalais Français, Joaquim Noah Camerounais Français, Tim Capella Suisse Angolais, Sefalosha qui est un Suisse sud-africain, Oladipo qui est un Ghanéen, Nigérian américain, ou encore du Nigérian Nwankwo Azinze. Donc je peux dire qu'aujourd'hui en NBA il y a de nombreux joueurs africains et même ceux qui ont évolué dans des pays disons européens. Cela prouve qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé sur le continent africain.
Quel est le potentiel de l'Afrique en matière de basketball?
Le basket africain a fait d'énormes efforts, mais doit en faire encore un peu plus parce que le basketball n'est pas encore pratiqué sur un plan professionnel, ce qui fait qu'il y a une marge de progression qui est énorme pour rattraper, que ce soit le continent européen et même le continent américain, les Sud-Américains. Mais le potentiel humain est là. C'est le continent où il y a quand même 1 milliard d'habitants et ce continent est béni sur le plan naturel, la taille, le poids, certaines facilités à pratiquer ce sport. Maintenant, il revient à y investir et à développer, que ce soit les formateurs, les conditions de jeu pour développer ce sport au plus haut niveau.
Voilà, c'était Eugène Pewa Pelema, ancien membre et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, joint à Gettysburg dans l'état du Maryland.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Comment rompre une relation amoureuse de façon élégante sans blesser votre ex? La rupture amoureuse peut être difficile et douloureuse pour certains. Alors comment rompre en douceur? Envoyez vos réactions par SMS au 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez aussi au 001-202-619-3140. Encore une fois, c'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Nos salutations ce matin à nos amis de Kinshasa qui nous écoutent sur Raga FM. Peace Africa!
Morgane Guériec. Au micro, Annette Burton à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour l'Afrique, Morgane Guériec au micro, Anne Albertson à mes côtés. Bienvenue à cette édition du jeudi 23 avril 2015. Au sommaire ce matin...
Au Nigeria, la forêt de Sambisa, dernier bastion connu de la secte islamiste Boko Haram, est aujourd'hui la cible d'une offensive de l'armée.
Insécurité grandissante au Mali, la population vit la peur au ventre dans la région de Mopti.
L'administration est presque absente dans certaines localités telles que Tenenku. Les villages sont laissés à leur propre sort et ce sont les hommes armés qui y dictent leurs lois.
De son côté, la rébellion Touareg n'a toujours pas approuvé l'accord d'Alger.
En Guinée, le président Alpha Condé a rejeté implicitement hier tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition appelle à des manifestations dans tout le pays aujourd'hui.
Ne manquez pas la Minute Éco et les sports, mais d'abord le journal.
Au Nigeria, le dernier bastion connu de la secte islamiste Boko Haram est aujourd'hui la cible d'une offensive de l'armée. Chérubin Dorsil pour des précisions.
Les troupes nigérianes, avec l'appui d'avions de combat, ont envahi la forêt de Sambisa ce mercredi, espérant finalement venir à bout de cette insurrection de 6 ans. De sources militaires ont confirmé à l'agence Reuters que l'opération avait bel et bien commencé dans cette forêt située près de la frontière camerounaise. Sambisa revêt un intérêt particulier, étant situé à environ 100 km du village de Chibok, où Boko Haram avait enlevé plus de 200 jeunes filles il y a un an. Des responsables du renseignement avaient à un moment laissé entendre que les écolières kidnappées étaient détenues dans cette localité, mais des drones de surveillance américains n'ont pas pu les repérer. Durant les 2 derniers mois, les armées du Nigeria, du Tchad, du Niger et du Cameroun se sont concertées pour tenter d'écraser Boko Haram, un groupe responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes et de l'enlèvement de centaines d'autres et qui a fait acte d'allégeance à l'organisation djihadiste État islamique. Bien qu'affaibli, Boko Haram demeure très dangereux, particulièrement pour les civils.
Au Mali, la rébellion Touareg a confirmé hier n'avoir pas encore approuvé l'accord d'Alger, dont la signature est prévue le 15 mai à Bamako. Jean-Roger Billon.
La coordination des mouvements de l'Azawad, qui avait refusé le 18 avril de paraffer l'accord d'Alger, a rappelé hier dans un communiqué que le projet d'accord ne l'engagerait que lorsqu'elle l'aura approuvé. La CEMA réaffirme son engagement à respecter le cessez-le-feu signé à Kidal le 23 mai 2014 et la déclaration de cessation des hostilités conclue à Alger le 24 juillet 2014. Les rebelles souhaitent entre autres la reconnaissance de l'Azawad comme entité géographique, politique et juridique et la création d'une assemblée interrégionale couvrant Gao, Kidal et Tombouctou. De son côté, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtam Lamamra, affiche un optimisme prudent. Il a dit hier être convaincu que la plupart des parties maliennes seront présentes à la signature de l'accord le 15 mai à Bamako.
Le président guinéen Alpha Condé a rejeté implicitement hier tout changement de date de l'élection présidentielle. L'opposition demande l'annulation du calendrier électoral qui place les locales après la présidentielle. Henri Francisque.
La constitution guinéenne impose que les élections présidentielles aient lieu à une date précise. Sinon, il n'y a plus de pouvoir, a déclaré le président Alpha Condé à l'issue d'un entretien à l'Élysée avec son homologue français François Hollande. L'opposition a appelé à des manifestations dans tout le pays ce jeudi pour dénoncer le calendrier électoral de la discorde. La commission électorale nationale indépendante a renvoyé les élections locales à 2016 après la présidentielle fixée à octobre 2015. D'ailleurs, les 13 et 14 avril, entre partisans de l'opposition et forces de l'ordre, avaient fait 2 ou 3 morts. 12 personnes ont été condamnées à 6 mois de prison ferme à la suite de ces incidents.
Guinée toujours, 11 personnes ont été condamnées à la prison à perpétuité pour le meurtre de 8 membres d'une mission de sensibilisation à Ebola en septembre 2014. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des sources judiciaires. Les 15 autres personnes jugées pour ces meurtres ont été acquittées au terme du procès mardi soir, selon les mêmes sources.
Présidentielle togolaise, les forces de sécurité ont voté par anticipation hier, le grand public étant attendu aux urnes samedi. La commission électorale affirme ne pas disposer de chiffres, mais la concertation nationale de la société civile, citée par l'AFP, estime à 20 000 le nombre de militaires, policiers, gendarmes, douaniers et pompiers qui devaient voter.
Et dans le même temps, Amnesty International et Action des chrétiens pour l'abolition de la torture appellent les 5 candidats à la présidentielle au Togo, où la torture reste une réalité, à s'engager à défendre les droits de l'homme. Il faut d'abord mettre un terme à l'impunité des auteurs des exactions d'avril 2005 durant la calamiteuse présidentielle ayant porté l'actuel président Faure Gnassingbé au pouvoir, entaché de violences politiques, ayant causé la mort de près de 500 personnes, indique un communiqué cité par l'AFP.
En Angola, 22 personnes sont mortes dans des affrontements entre la police et les membres d'une secte. Des précisions avec Eddy Sango.
Selon les médias angolais, des affrontements avaient éclaté le 16 avril dans la localité de São Pedro Sumé lorsque des centaines d'adeptes de la secte qui y vivent reclus ont opposé une résistance à la police qui tentait d'interpeller Julinho Kalupeta, le dirigeant d'un mouvement évangélique appelé « Septième jour, la lumière du monde ». L'agence angolaise de presse qui cite le commandant général de la police nationale affirme que la secte est illégale car non connue par les autorités angolaises. 13 membres de la secte ont été tués. Ils faisaient partie de la garde des Kalupeta. Ils étaient, selon le commandant général de la police, les premiers à ouvrir le feu contre la police. 9 policiers ont aussi trouvé la mort dans les affrontements. Le MPLA, parti du président José Eduardo Santos, a accusé les principales parties de l'opposition, l'UNITA, des soutiens tenir en sommet la secte pour créer l'instabilité, une affirmation vivement rejetée par l'UNITA. La secte, une branche dissidente de l'église adventiste du septième jour, prévoit la fin du monde pour cette année et incite ses fidèles à vivre coupés du monde.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les dirigeants européens doivent se prononcer aujourd'hui sur une opération militaire contre les trafiquants de migrants en Libye. Le chef du gouvernement italien a demandé l'examen de la possibilité de mener des interventions ciblées contre les passeurs en Libye, devenu le pays d'embarquement des migrants et des candidats à l'asile en direction de l'Italie et de Malte. Personne ne parle d'envoyer des troupes au sol, a assuré une source européenne, tout en soulignant que la question d'un mandat des Nations Unies dépend de l'étendue de la mission. Ce ne sera pas une guerre, mais des actions ciblées, a confié à l'AFP une source proche du dossier.
Il faut entreprendre des efforts systématiques pour identifier, capturer et détruire les bateaux avant qu'ils ne soient utilisés par les trafiquants, selon le projet de déclaration du sommet extraordinaire, convoqué après un nouveau naufrage dimanche qui a fait quelque 800 morts en Méditerranée. Les chefs d'État et de gouvernement devraient donc lancer les préparatifs pour une possible opération de sécurité et de défense, autrement dit une opération militaire. Ce serait une première dans la lutte contre l'immigration clandestine, souligne l'AFP.
Au Yémen, l'aviation de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite a mené dans la nuit et jeudi matin, aujourd'hui donc, de nouveaux raids contre des positions rebelles. C'est ce qu'ont indiqué des habitants. Les frappes ont visé des rebelles près de la capitale Sanaa, au nord de la ville de Taiz et dans la ville de Yarmine, ont ajouté ses sources.
En France, un Algérien soupçonné de préparer un attentat contre une église et d'avoir assassiné une femme a été arrêté à Paris. Des documents en lien avec le groupe État islamique et Al-Qaïda ont été saisis. Les autorités françaises soulignent la persistance d'une menace inédite. Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé sur France Inter que 5 attentats avaient été déjoués ces derniers mois en France.
Ici à Washington, le contre-amiral John Kirby, ancien porte-parole du Pentagone, va devenir le porte-parole du département d'État. C'est ce que rapporte un responsable américain que cite l'AFP. Il sera donc chargé de briefer les journalistes sur la politique étrangère américaine et les principaux dossiers diplomatiques. Il va succéder au département d'État à Jennifer Psaki, qui elle-même a obtenu une promotion en devenant fin mars chef de la communication de la Maison-Blanche.
Et aux États-Unis toujours, la famille de Michael Brown entend intenter un procès au civil contre la ville de Ferguson, au Missouri. Souvenez-vous, ce jeune noir de 18 ans avait été abattu par un policier en août 2014 dans cette ville du Missouri alors qu'il n'était pas armé.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
La vague de violence xénophobe qui secoue l'Afrique du Sud depuis plusieurs semaines a durement affecté l'économie, faisant perdre des recettes d'exportation, a regretté mercredi le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie. Bien qu'il soit encore trop tôt pour quantifier les pertes pour l'économie la plus sophistiquée d'Afrique, qui exporte beaucoup dans le reste du continent, l'effet des violences est selon lui clairement négatif. Ces violences ont été suivies dans certains pays du reste de l'Afrique par des appels au boycott des produits sud-africains. La Banque islamique de développement, la BID, a signé un accord de prêt de plus de 77 milliards de francs CFA avec la Côte d'Ivoire pour le financement du prolongement de l'autoroute du Nord entre la capitale Yamoussoukro et la ville de Thiébissou. La BID avait déjà participé au financement de la première phase de l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro. En 2013, le groupe de la BID a approuvé près de 2 milliards de dollars pour le financement de projets en Afrique sur une enveloppe de 3,5 milliards de dollars dédiés à ses opérations sur le continent. Et des paysans africains et asiatiques ont annoncé le lancement d'une série d'actions de protestation contre l'accaparement de leurs terres par une holding dont le principal actionnaire est le groupe Bolloré. Il s'agit de la SOCFIN, holding luxembourgeoise dont le capital est détenu à 39% par Bolloré, qui possède des plantations de palmiers à huile et d'EVA dans plusieurs pays africains ainsi qu'en Indonésie et au Cambodge. La première action est prévue pour ce jeudi dans une plantation de la localité camerounaise de Dibombari.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Jean-Roger Billon. On passe au sport avec Bagessikoura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Morgane.
En football, suite et fin des huitièmes de finale de la Ligue des Champions en Europe.
La Juventus Turin s'est hissée en demi-finale en obtenant un nul 0-0 hier soir à Monaco. Vainqueur 1-0 à l'aller sur un pénalty litigieux de Vidal. La Juve, deux fois sacrée dans la compétition reine en 1985 et 1996, retrouve donc le dernier carré d'as pour la première fois depuis 2003. Lorsqu'elle avait atteint la finale perdue au tir au but face à l'AC Milan. Quant au Real Madrid, après le 0-0 de l'aller face à son rival de l'Atlético Madrid, il peut dire merci à Chicharito Hernandez qui a marqué dans un match tendu le but de la victoire au bout du suspense 1-0 à la 88e minute. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu vendredi prochain à la mi-journée au siège de l'UEFA à Nyon. En Suisse.
Et la NBA, bientôt en Afrique.
Oui, la NBA fera incursion pour la première fois en Afrique le 1er août prochain à Johannesburg dans un match exhibition entre joueurs originaires du continent et du reste du monde. On reviendra plus en détail sur cet événement dans la partie magazine.
NBA, toujours, Oklahoma City a limogé son entraîneur.
Oui, Scott Brooks, après avoir manqué les playoffs de la NBA pour la première fois depuis 2008-2009, a été remercié. Les Founders, équipe où évolue Russell Westbrook, meilleur marqueur de la saison 2014-2015, et Kevin Durant, meilleur joueur de la saison 2013-2014, a terminé à la 9e place de la conférence Ouest avec un bilan de 45 victoires pour 37 défaites. Et puis Morgan, toujours en NBA, les résultats des playoffs.
Hier soir, Brooklyn a perdu face à Atlanta, 91-96. Et Portland Trail Blazers s'est incliné face à Memphis, 82-97.
Salut les amis, ici Roger Moutou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Comment rompre une relation amoureuse de façon élégante sans blesser votre ex? La rupture amoureuse peut être difficile et douloureuse pour certains. Alors comment rompre en douceur? Envoyez vos réactions par SMS au 225 0758928540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez aussi au 001-202-619-3140. Encore une fois, c'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Nos salutations ce matin à nos amis de Kinshasa qui nous écoutent sur Raga FM. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec, en votre compagnie pour cette édition du jeudi 23 avril 2015. Place au dossier du jour. Nous partons au Mali, dans la région de Mopti. La population vit la peur au ventre et pour cause, l'insécurité y est grandissante en raison des attaques des groupes armés. De Mopti, la correspondance de Mamadou Bokoum.
Dans la région de Mopti, l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Les hommes armés circulent un peu partout dans le delta. Presque toute la zone inondée est devenue un no man's land. Tantôt, ce sont des véhicules des forains qui sont attaqués, tantôt les villages de différentes communes. Des attaques à travers lesquelles il y a mort d'hommes dans la plupart des cas. L'administration est presque absente dans certaines localités telles que Ténénkou. Les villages sont laissés à leur propre sort et ce sont les hommes armés qui y dictent leurs lois. La belle illustration est l'arrivée il y a une semaine dans la commune de Moura, cercle de Djenné, de quelques éléments armés qui se réclament de la secte islamique la Daoua. Une secte dont l'investigateur dans cette zone est Amadou Koufa, un prêcheur peul qui a rallié le rang des islamistes en 2012. Dans ce village, ils ont assiégé la mosquée où ils ont prêché avant de rendre visite au chef de village et au maire à qui ils ont notifié leur contrôle de la zone. En plus, ces éléments ont mis en garde la population d'une éventuelle dénonciation sous peine de mettre le feu au village. Un peu plus loin, à Kouakourou, les maires et le sous-préfet n'y passent pas la nuit par crainte d'être enlevés. La menace djihadiste s'est prolongée jusqu'à Sofara où le sous-préfet avait mis à l'abri sa famille. Bref, les populations de cette zone sont dans l'insécurité totale au vu et au su des autorités maliennes. Des autorités qui s'apprêtent à signer des accords de paix le 15 mai prochain, même sans une des parties belligérantes. Cet accord pourrait-il amener une paix définitive au Mali? Wait and see. Mamadou Bokoum à Mopti pour VOA Afrique.
Cap sur le Niger, le gouvernement a décidé de fermer toutes les écoles de Niamey pour 5 jours pour une campagne de vaccination qui commence aujourd'hui. La capitale nigérienne et d'autres villes du pays sont confrontées depuis quelques semaines à une épidémie de méningite qui a déjà fait plus de 80 décès.
L'annonce de
point sur ce reportage dans notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Depuis l'annonce de l'épidémie par les autorités sanitaires, les populations, à défaut d'une campagne de vaccination, se sont lancées dans la recherche du vaccin pour se prévenir. Mais le produit est cher, mais surtout rare sur le marché, comme le confirme ce pharmacien.
Au niveau de nos centrales d'achat, la disponibilité n'y est pas. Et nous, on ne peut que passer par les centrales d'achat pour commander les vaccins afin de mettre à disposition ces vaccins-là à nos clients. Nous sommes même peinés de pouvoir dire à nos clients que nous n'en disposons pas de ces vaccins-là parce que sur un sondage de 5 clients qui rentrent dans cette pharmacie, les 4 nous demandent le vaccin. Et très malheureusement, nous sommes très très peinés de ne pas pouvoir mettre à leur disposition ce vaccin.
Comme dans de pareilles circonstances, des individus trouvent une occasion pour abuser de l'ignorance des populations. C'est ainsi qu'un vaccin pas du tout efficace est mis à la disposition des demandeurs à vil prix.
Dr Idi Iliassou est le responsable de l'Observatoire des droits de la santé du Niger.
En ce qui concerne les gens qui font des vaccins en ville, on ignore la provenance de ce vaccin et on ignore même les gens qui le font, puisque jusque-là, de façon officielle, il n'y a aucun vaccin qui se fait. Parce que s'il y a une vaccination de masse de façon officielle, ça ne peut être que dans les structures de santé. Or, à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin dans les structures de santé pour vacciner la cible. Mais il y a des vaccins qui sont vendus dans les pharmacies, dans les officines. Nous, on attire l'attention de ces gens qui s'adonnent à ces pratiques. Non seulement tu ne peux pas acheter un vaccin à 55 000 ou à 124 000 dans une pharmacie et venir le vendre à 1 000 francs ou à 2 000. C'est ça la contradiction. Il faut faire attention, il faut être prudent.
La maladie fait des ravages, notamment dans la capitale Niamey. Les commandes de vaccins lancées par le gouvernement sont annoncées pour être là ce mercredi pour permettre une réussite de la campagne de vaccination qui doit débuter jeudi. Il a décidé de fermer toutes les écoles jusqu'au lundi prochain. Manu Agali est le ministre de la Santé.
Notre pays a connu beaucoup d'épidémies de méningite et maintenant il y a l'apparition de nouvelles souches qui est épidémique, c'est la souche W et la souche C. Donc au niveau de Niamey, nous avons vu l'évolution des cas qui fait en sorte qu'il nous faut agir en termes de vaccination, en termes de traitement, de prise en charge des malades. Donc aujourd'hui, si le gouvernement décide de fermer les établissements scolaires, c'est pour permettre d'abord de prévenir et de préparer aussi une riposte. Nous allons organiser des vaccinations. Et on va commencer au niveau des écoles primaires.
Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Cette semaine, Washington Forum vous emmène en Afrique du Sud. Depuis plus de deux semaines, le pays connaît un nouvel épisode de violence xénophobe. Comment expliquer ce sentiment de haine envers les immigrés? Pourquoi le gouvernement sud-africain a-t-il du mal à contenir la situation? Nous aborderons aussi un autre volet de la thématique de l'immigration. La Méditerranée est devenue un véritable cimetière maritime qui laisse l'Europe perplexe. Que faut-il faire pour y remédier? Qu'est-ce qui pousse ces malheureux exilés entre les mains de véritables mafias sans scrupules? Retrouvez-moi Salwa Jafari pour un nouveau Washington Forum ce jeudi 23 avril à 19h, temps universel.
Plus des trois quarts des entreprises américaines, étudiées par les ONG Amnesty International et Global Witness, ne respectent pas les obligations de la loi Dodd-Frank sur les minerais provenant de zones de conflit. C'est ce qu'indiquent les ONG dans un rapport publié mercredi. Pour plus de précisions sur ce rapport intitulé « Une mine de transparence », on écoute Evie Franck, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International.
En 2014, juste pour donner un peu de contexte, en 2014, c'est la première année dans laquelle plus d'un millier d'entreprises ont remis un rapport sur l'usage des minerais provenant des zones de conflit à la Security and Exchange Commission. Amnesty et Global Witness, nous avons pris un échantillon de ces entreprises. Nous avons sélectionné une centaine d'entreprises. 50 d'entre eux sont les 5 plus importants des 10 secteurs d'activité différents et les 50 autres ont été choisis de manière aléatoire avec un programme informatique. Après, ce que nous avons fait, c'est de fixer 12 critères pour évaluer la qualité des rapports qui sont soumis à la Security and Exchange Commission, sur base desquels on a fait une évaluation des efforts de diligence que ces entreprises ont fait. C'est sur base de ça que nous, on a conclu que presque 80% des entreprises ne vérifient pas correctement le produit qui contient des minéraux provenant des zones de conflit. Mais nous aimerons aussi clarifier que ça veut dire que quand même une entreprise sur cinq a bien respecté la loi et ils ont mis en œuvre leur devoir de diligence. Ils ont prouvé que c'est bien possible d'appliquer ce devoir de diligence et ainsi ils ont écarté l'argument des entreprises que la mise en œuvre d'une devoir de diligence sera trop compliquée ou trop coûteuse. Et donc, Amnesty et Global Witness regrettent aussi que ces grandes entreprises et les groupes d'industrie, ils ont dépensé beaucoup d'argent et beaucoup de temps pour combattre la loi, plutôt qu'user cet argent et ce temps pour mettre en œuvre cette loi.
Les entreprises qui ne se sont pas contentées de démarches auprès de leurs fournisseurs directs, mais qui ont pris contact ou tenté de prendre contact avec les fonderies, les affineries qui transforment les minerais, elles montrent vraiment la voie, elles montrent que ça peut se faire.
Oui, effectivement, et c'est ça en fait un des conclusions principales de notre rapport, c'est que c'est possible. C'est vrai que ça demande un effort, ça demande un investissement et du temps. Il faut que les entreprises établissent une politique pour identifier les risques dans leur chaîne d'approvisionnement. Ils doivent vraiment faire les études pour clarifier leur propre chaîne d'approvisionnement, parce que souvent, les entreprises ne savent même pas d'où vient ces minéraux. Mais donc, 21% des entreprises que nous avons étudiées, ils ont fait ces efforts et que c'est bien possible de le faire.
On écoutait Evie Franck, spécialiste de la République démocratique du Congo à Amnesty International.
La Voix de l'Amérique en RDC, sur la radio communautaire du Katanga, à Lubumbashi, à Kamina et à Likasi.
La NBA, bientôt en Afrique. La Ligue nord-américaine de basketball professionnel jouera le 1er août prochain son tout premier match d'exhibition sur le continent. Celui-ci mettra aux prises à Johannesburg Team Africa, conduite par le Britannique d'origine sud-soudanaise Luol Deng de Miami, et Team USA, mené par l'Américain Chris Paul des Clippers de Los Angeles. Timothée Donongmaï a demandé à Eugène Pewa-Pelema, ancien joueur et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, la portée de cette rencontre de la NBA en terre africaine.
Je pense qu'il est très important pour la simple raison que, un, ça développera le basketball sur le continent africain qui a un très grand potentiel humain, mais aussi ça peut être un moyen de développement socio-économique, création d'emplois, si on professionnalise le sport à une échelle continentale.
Des Africains comme Hakim Olajuwon ou encore Dikembe Mutombo se sont illustrés au sein de la NBA. Où se situe la représentation du continent aujourd'hui?
Mais aujourd'hui, on a de nombreux joueurs, hein, soit qui jouent pour leur pays d'origine ou qui jouent pour un autre pays. J'en citerai quand même un petit nombre. Il s'agit par exemple des Camerounais Luc Mbamute et Joel Embiid à Philadelphia Sixers, du Congolais espagnol Serge Ibaka, du Congolais RDC Bismack Biyombo, du Sudanais anglais Luol Deng, du Nigérian Aminu Al-Farouk, du Sénégalais Djeng Gorgui, ou encore des Nigérians Ezeli, Yudo, Ghanéen Vonley, Noir, Nigérians Grec Antetokounmpo Giannis, ou encore des Nigérians Américains Guadala, Boris Dio, Sénégalais Français, Joachim Noah, Camerounais Français, Tim Capella Suisse Angolais, Sefalosha qui est un Suisse sud-africain, Oladipo qui est un Ghanéen, Nigérian américain, ou encore du Nigérian Onoaku, Azim Zé. Donc je peux dire qu'aujourd'hui en NBA, il y a de nombreux joueurs africains et même ceux qui ont évolué dans des pays, disons, européens. Cela prouve qu'il y a un énorme potentiel qui peut être développé sur le continent africain.
Quel est le potentiel de l'Afrique en matière de basketball?
Le basket africain a fait d'énormes efforts, mais doit en faire encore un peu plus parce que le basketball n'est pas encore pratiqué sur un plan professionnel, ce qui fait qu'il y a une marge de progression qui est énorme pour rattraper, que ce soit le continent européen et même le continent américain, les sud-américains. Mais le potentiel humain est là. C'est le continent où il y a quand même 1 milliard d'habitants et ce continent est béni sur le plan naturel, la taille, le poids, certaines facilités à pratiquer ce sport. Maintenant, il revient à y investir et à développer, que ce soit les formateurs, les conditions de jeu pour développer ce sport au plus haut niveau.
Voilà, c'était Eugène Pewa-Pelema, ancien membre et ancien entraîneur adjoint de l'équipe centrafricaine de basketball, joint à Gettysburg dans l'état du Maryland.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Aujourd'hui, African Music. Nous allons aussi continuer avec notre sujet hebdomadaire. Comment rompre une relation amoureuse de façon élégante sans blesser votre ex? La rupture amoureuse peut être difficile et douloureuse pour certains. Alors comment rompre en douceur? Envoyez vos réactions par SMS au 225 0758-928-2850. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez aussi au 001-202-619-3140. Encore une fois, c'est le 001-202-619-3140. RM Show, c'est chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Nos salutations ce matin à nos amis de Kinshasa qui nous écoutent sur Raga FM. Peace Africa!
Morgane Guériec au micro, Annette Burton à mes côtés. Un grand merci à toute la rédaction. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente journée.
Soyez au cœur de l'info.